Bonjour et merci d'être venu. Nous allons discuter du travail de l'auteur, de celui du traducteur, de la relation, des relations éventuelles entre les deux. Alors, je commence par une petite mise au point. Comme vous vous en rendez compte, vous n'avez pas de casque sur les oreilles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interprète. Alors, nous allons essayer, nous avons mis au point une façon qui nous permettra de dialoguer de façon à ce que vous suiviez. Alors, je vous demande, si jamais, moi je me connais, je peux porter par l'enthousiasme, commencer à ne parler uniquement qu'en anglais et oublier de traduire, donc vous n'apprécierez pas, donc, de me le signaler gentiment. C'est inutile de me jeter des tomates. Hein, simplement, traduction. OK ? Donc, l'auteur et son ombre avec Guy Gabriel Kay, grand écrivain de fantasy, couronné à deux reprises par le World Fantasy Award et en France par le prix Elbakin. Non, une reprise World Fantasy Award, deux prix Elbakin, excusez-moi, qui est canadien et qui a déjà l'auteur d'une œuvre assez abondante, dont les deux derniers romans ont été traduits par Michael Cabon, ici présent. Et donc, si vous étiez là l'année dernière, vous avez vu un peu comment ça se passait. On abordait toutes sortes de sujets. Et je vais commencer par Michael. I'm going to start with Michael. Pourrais-tu nous dire, commencer, parce que ça, je présume que ça va être une longue réponse. Just to start, because it's going to be a long answer. Quelles sont les difficultés spécifiques que tu as rencontrées en traduisant ces deux livres? What are the specific problems you had to face while translating these two books? Voilà, par rapport, compared to other books in your experience, comparé à d'autres livres dans ton expérience.
Bonjour. Déjà, on a la difficulté de la fantaisie qui est la même que pour la science-fiction par rapport à la littérature générale, où vous connaissez ça très bien en tant que lecteur. On ne sait jamais sur quel pied danser. Quand on peut rencontrer un concept, on ne va pas forcément savoir ce que c'est. Si on rencontre, là j'ai un exemple précis dans ce livre-là, on rencontre une femme renarde à un moment. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un renard qui se fait passer pour une femme ? On apprend en fait que c'est un esprit. Ça c'est courant dans la fantaisie, on sait jamais trop ce que c'est, donc il faut lire et on va apprendre au fur et à mesure. Et la difficulté supplémentaire dans les œuvres de Guy Gabriel Kay, c'est ce sont des œuvres très référencées. Et donc là, cette femme renarde, donc ça fait référence à des légendes chinoises. Donc si on connaît pas la légende, il va falloir se renseigner. Et ça, c'est juste un exemple.
I'm going to translate for Guy's benefit. What specific problem is first the usual problem you have when translating a science fiction or a fantasy book? You come to some new concept, some new creature. Or is this purely the work of the writer's imagination, or does that refer to something, a legend or what? C'est bon ?
C'est ça.
That was short but sweet.
Donc ça, c'est plutôt l'aspect fantasy tel que Guy Gabriel Kay l'aborde. Et en plus, on a énormément de références historiques et littéraires. Je vais peut-être mettre le livre pour que vous le voyez bien. On a une superbe couverture en plus de Raphaël Desfossés. Donc beaucoup de références culturelles, historiques et littéraires. Donc il faut se renseigner, apprendre tout le fond qui a nourri son imagination et s'en nourrir soi-même.
So once you realize there are a lot of references to specific literary works, he has to read them, to ponder them, and to use them in his translation.
Alors, voilà la liste que m'a dressée Michael de tous les ouvrages qui lui ont été utiles pour la traduction de ses livres.
A list of all the books he had to read or to consult. Donc, je vous en donne pas quelques-uns, mais il y a quand même de la poésie, des œuvres romanesques,
parfois des œuvres contemporaines d'auteurs français. Hein, il n'y a pas simplement Au bord de l'eau ou autre. Et bref, tu fais feu de tout bois.
Everything is good. Everything is grist to the mill.
Ce que j'essaye dans mon travail, et c'est particulièrement vrai pour Guy, j'essaye de déterminer ce qui a nourri son imagination. Dans son cas, c'est énormément de poésie chinoise. Il a lu énormément de poésie chinoise en traduction anglaise. Et j'ai essayé de mon côté de lire, peut-être pas autant, puisque j'ai travaillé moins longtemps sur ces livres que lui, mais j'ai lu énormément de poésie chinoise en traduction française.
Did you get the gist of it? Now, what you realize is that among other things, you had read a lot of Chinese poetry in English translation, so he tried to read not the same range as you, because he had less time to do his work than you. He tried to read Chinese poetry, the same, in French translation.
Et ce travail préparatoire, mais que je fais tout au long de la traduction, ça permet de voir ce qui a nourri son style, puisque dans son style, on retrouve constamment des références, des tournures de phrases qu'on retrouve dans les traductions des poèmes chinois.
Et so this groundwork, which he makes before working and as he goes along, thanks to this groundwork, he can better appreciate your style, because he sees in your writings a reference to other writings which he has already encountered.
Et ensuite, j'essaye de mon côté de rendre le même effet. Dans ma traduction française, je vais non seulement traduire le texte de Guy, mais je vais avoir à l'esprit les références et employer les mêmes tournures qui reviennent souvent sous la plume des traducteurs du chinois vers le français. Mm. Il y a une façon de traduire qui est particulière.
Yeah. So when he translates your work, he has in his mind the examples, the quotes of poetry which you refer to, so he tries to be as more faithful as possible to the French translation of this poetry to translate your stuff. Yeah, I wanted to ask you, did you realize, were you aware of the kind of work a translator and does, and especially the kind of work Michael does?
Well, I actually feel very fortunate to have two translators on stage with me. So what I say can be well translated quickly.
Je trouve que j'ai de la chance d'avoir avec moi deux traducteurs qui ne sont pas interprètes, je le précise, pour pouvoir s'exprimer rapidement et que vous compreniez vite.
From the writer's point of view, because I have been very fortunate to have my books translated into 30 languages now.
En tant qu'écrivain, j'ai eu la chance d'être traduit dans 30 langues différentes.
You realize that your translator is either a blessing or a curse.
Et on se rend compte que les traducteurs sont soit une bénédiction, soit une malédiction.
Il y a quelques malédictions dans la salle, je les connais.
The reality, I'm sitting with a blessing.
Donc il est assis avec les bénédictions.
The reality is, as a writer, and the comment was made about the writer's voice, you are trying for your own distinctive voice as a writer.
Donc il parle de la voix qui est la sienne en tant qu'écrivain.
But what you realize is that when you are translated into another language, your voice filters through a different person's understanding.
Mais on se rend compte que notre voix d'écrivain, en passant dans une autre langue, passe par le filtre de la traduction et par le filtre d'une personne qui est le traducteur.
So you are, in a real sense, as a writer, at the mercy of whether your translator is attentive, sensitive, and embraces the ideas of the book.
Et l'écrivain est à la merci du traducteur, qui, suivant qu'il sera plus ou moins attentif à la voix de l'écrivain et consciencieux, en fait.
And for my books, because I'm not writing one long 8-volume story, each book is a different setting, and it has a different voice, it has a different style to be suited to that setting.
Et puisque je n'écris pas des longues séries en 8 volumes, chacun de mes ouvrages est différent au niveau du style et du cadre, et donc c'est un travail supplémentaire pour le traducteur.
So when Mikhail wrote me what he just said here, that the poetry of the Tang Dynasty and then the Song Dynasty in China became very important to him, I knew that I was in good hands because the poetry was my doorway in to the two novels that I wrote inspired by China.
Donc je reprends le jeu parce qu'il parle de moi. C'est compliqué. Quand je lui ai écrit pour lui dire que la traduction de ses œuvres m'avait ouvert la porte de la poésie chinoise et de la culture chinoise en général, parce que je n'y connaissais absolument rien, et ça avait été un éblouissement pour moi que je m'en suis toujours pas remis. Ça lui a fait plaisir parce que il a vu que son travail était en de bonnes mains. Et que moi, en tant que traducteur, j'essayais de faire passer la même chose, parce que quand il a écrit, il est passé effectivement par la poésie. C'est la poésie qui lui a permis d'écrire ses livres.
Merci, thank you. That sigs, as I say, I think, to the next question I wanted to ask, which you have already answered. Have you been in contact while Mikhail was working? Ça débouche sur la question suivante que je voulais poser. Et ils ont déjà répondu, à savoir, ont-ils été en contact? And were there a lot of coming and going, lot of letters?
Not with Mikhail. This is our first meeting is here. We only corresponded after he finished the translation, when I wrote to thank him for the two awards that my two books inspired by China won here in France.
Donc nous n'avons pas eu de contact pendant la traduction. Le seul contact qu'on a eu, c'était à la fin de la traduction du deuxième livre, quand Guy m'a écrit pour me remercier pour les deux prix Elbakin que les livres ont reçus.
There's a very wide range of preference for translators. Some of them want regular conversation with the author, and some of them want to sit down and figure it out themselves, and then they may have questions at the end. From my point of view, it's up to your style how you want to proceed. It's not for the author to decide how a translator works best.
Donc, de son point de vue, il y a deux sortes de traducteurs. Ceux qui vont écrire beaucoup à l'auteur, essayer d'avoir beaucoup de communication avec lui, et ceux qui vont travailler dans leur coin, essayer de tout comprendre par eux-mêmes. Et Guy respecte ça tout à fait. Il estime que c'est au traducteur de choisir sa méthode de travail, en fait.
Thank you, merci. Puisque tu
Je peux continuer là-dessus pour me justifier. Effectivement, je ne l'ai jamais contacté. Je contacte très peu les auteurs. Ça m'arrive quand vraiment j'ai un point. J'essaye de comprendre le livre par moi-même. J'estime que tout est dans le texte. Je me mets dans la même position que le lecteur. Le lecteur ne va pas écrire à l'auteur pour comprendre. Donc j'estime que tout est dans le texte. Si je ne comprends pas un passage, je vais lire. Je vais lire ses influences et je vais trouver la référence. S'il y a un point qui me pose problème, vraiment en fin de travail, je vais le contacter. Mais là, les livres sont tellement clairs, c'est limpide, je n'ai pas eu besoin.
So what Mikhail say basically is that he prefers not to contact the author only at the last resort, because he says everything is in the text, in the story, in the prose. So if he doesn't understand at first, then he digs deeper.
One of the things that working with translators in different languages makes you aware of is how different languages create different challenges for the translator.
Donc à force de travailler avec différents traducteurs, il se rend compte que chaque langue a ses propres difficultés et elles sont différentes d'un pays à l'autre.
So en français, every time I have been translated into French, the translator must make a decision, for example, about when two people will begin to tutoyer each other, when that transition takes place. That does not happen in English. It's not something I have to think about. It's something you have to think about.
Donc, une des particularités du français, c'est qu'il va arriver à un moment dans une relation entre deux personnages où on va décider ou pas, d'ailleurs, de passer au tutoiement. Parce que c'est un concept qui n'existe pas en anglais. Et là, c'est vraiment, ça appartient au traducteur. Il y a toujours un moment précis dans une relation où on passe au tutoiement. Et c'est difficile à déterminer.
And every language has an example of that same kind of challenge. When Under Heaven, Chevaux Celeste, was translated into Chinese, tremendously interesting decisions had to be made by the translator to make it work in that language.
Et donc, chaque langue aura toujours une difficulté particulière comme ça, et c'était particulièrement vrai pour le chinois. Où il y avait une...
So let me give you one example. I promised my friends here that I would tell one story they would find interesting.
Donc, il a une histoire à nous raconter, il nous a promis que ça serait intéressant.
I hope I might have two, but we have one.
Peut-être deux.
The Chinese translator contacted me many times, and the most interesting question was this.
Le traducteur chinois l'a contacté à de nombreuses reprises, et sa question la plus intéressante était celle qui va suivre.
In Chevaux Celeste, I have a man journeying to the most sophisticated, decadent court in the world at that time.
Donc dans Les Chevaux Célestes, on a un personnage qui vit dans la cour la plus sophistiquée du monde à cette époque.
He is thinking that he has no capability of dealing with the courtiers, with the sophisticated people at that court.
Donc en arrivant dans cette cour, il estime qu'il n'a aucun moyen d'entrer en relation avec les gens qui vivent à cette cour.
So in English, and it would work in French too, I have him thinking as he journeys that there was no way that he could dance the dance that those men and women danced at court.
Donc pendant ce qu'il a écrit en anglais, on vit le voyage de ce personnage vers la cour et ses réflexions internes, et il se dit que jamais il ne pourra danser la danse que dansent ces gens, pardon. il ne pourra jamais participer à cette danse aussi bien qu'eux.
So my Chinese translator asked me, what does that mean?
Et le traducteur chinois lui a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne comprenait pas du tout l'expression.
So I explained it was a metaphor. It was, in fact, I used the example of Louis XIV in France.
Donc il a expliqué que c'était une métaphore en disant que ça faisait référence à Louis XIV en France.
Where part of the culture was the court dances that a courtier was expected to be skilled with.
Où à la cour du roi, il y avait une manière de se comporter qu'on pouvait comparer à une danse, au pas d'une danse.
And she said to me, we were on Skype, she said, yes, yes, I know that.
Et donc c'est une traductrice qui, quand il lui a parlé sur Skype, elle lui a dit, oui, je connais tout ça.
So I said, then what is the problem?
Alors, quel est le problème?
And she said, men don't dance at that court.
Et donc elle lui a répondu que le problème c'est que les hommes ne dansent pas à la cour des Tang.
And I knew that.
Et il le savait.
I knew that from my reading. It was not a literal, actual thing when men were dancing at the court.
Mais il ne parlait pas d'une vraie danse, c'était juste une métaphore.
It was a trap in the language, because in English or French, any reader would understand the metaphor of not being able to dance the dance.
Donc c'était un piège, mais il a écrit ça en sachant que son lectorat, tant anglais que français, comprendrait que c'était une métaphore, qu'il n'était pas question de danser réellement.
But in Chinese, it would be a barrier for a reader because men don't dance.
Mais en chinois, c'était pas possible. C'était une barrière entre lui et son lectorat, puisque il l'aurait pris trop littéralement, parce que pour eux, les hommes ne dansent pas à la cour.
So no male character in a setting like that book would think in that way, would come up with a metaphor for his problem involving dancing.
Donc, pour la traductrice chinoise, elle ne comprenait pas qu'un personnage du livre masculin, et cette métaphore en tête. C'était pas possible qu'il pense de cette façon.
And for me, it was fascinating because it shows how from language to language, or even better, from culture to culture, there are these traps or barriers that the translator must be aware of in dealing with a book from another language.
Et c'est fascinant de constater qu'entre deux langues et entre deux cultures, il y a comme ça des pièges à éviter et que le traducteur doit pouvoir contourner.
So in the end, I did what any intelligent writer will do, and I said to the translator, "You solve it."
Donc en définitive, il a pris la décision la plus intelligente qu'un écrivain puisse prendre. Il a dit au traducteur, débrouillez-vous. À la traductrice, c'est une dame.
So you do know our job. Vous connaissez notre boulot. Merci à Guy Gavriel-Kay pour cette longue réponse. On va s'intéresser à Michael maintenant pour lui demander un peu au quotidien, pas nécessairement sur les livres de Guy Gavriel-Kay, quelles sont ses méthodes de travail. Now we are going to ask Michael about the way he works daily on his job, not necessarily on your books, but your books among others. Je vais traduire tes réponses en anglais. Hein.
Donc je vais raconter mon quotidien de traducteur. J'ai des journées de travail, j'embauche à 8h30, 9h jusqu'à 18h et je traduis au kilomètre.
So he's working there as a translator, it's kind of a 9 to 5 job. You have a pause for lunch, do you? And he works. This is your first draft, le premier jet.
Oui.
This is the first draft.
Et je fais un premier jet. Alors j'ai une date butoir. Je veux avoir fini mon premier jet pour cette date. Je m'y tiens. Et ensuite, je me donne, suivant la difficulté et la longueur du livre, un mois à deux mois de battement pour la relecture.
So he gives himself a deadline for the first draft. He tries to stick by it. And when it's finished, he allows 1 or 2 months for rewrites and more research, maybe.
The same as any writer will do.
Donc, même chose pour l'écrivain.
Mais les recherches, je les fais pendant le premier jet. Et ça, je vais souvent les faire soit dans la journée, soit le soir en plus.
Research is made during the first draft writing, and sometimes in the evenings too.
So let me ask a question of you two. I like doing this.
Oh my God!
Do you find it makes a difference in your work if you love or dislike the books you are working on?
Alors, donc il demande à Jean-Daniel si on aborde notre travail différemment, si on aime ou si on déteste un livre.
Well, as a general rule, I try not to translate books I dislike. En règle générale, j'essaie de ne pas traduire des livres que je déteste, but it has happened to me recently once with a very good writer, great writer, but whose style I have no affinity with. Ça m'est arrivé récemment avec un écrivain réputé, un très grand écrivain, dont je me suis aperçu à l'usage que je n'arrivais pas, comme on dit en français, à entrer dans son style. Je n'avais pas d'affinité. You? Non, à chacun son tour.
Oui, hein. Non, bah, c'est, oui, c'est la même réponse. C'est vrai qu'on va éviter d'accepter des livres qu'on n'aime pas, puisqu'on va, on les traduira mal, en fait.
This happens in many aspects of the writing and publishing world. For example, a publicist or a marketing person for a publisher still has to do their job, even if they don't much like the book they are promoting.
Donc dans la chaîne du livre, tous les intervenants, tous ceux, les, au niveau du marketing, de l'édition, ils vont de toute façon avoir à faire leur travail, même s'ils n'aiment pas le livre.
You often read of a biographer who comes to hate their subject.
Et souvent les biographes vont en finir par détester en fait le sujet de leur étude.
And sometimes when you write a biography, you are working on the book for 5, 6, 10 years, so you are living with someone you dislike.
Et un biographe va étudier donc une personne pendant, ça peut durer 5-10 ans, et il va vivre littéralement avec quelqu'un qu'il déteste.
Yes, I know several instances of that. Je connais plusieurs exemples, puisque I've been reading a lot of biography for some work I'm doing on the side, and sometimes I'm frightened. But why did you? Maybe you had a contract. Pourquoi avez-vous? J'ai lu des biographies où vraiment l'auteur finit par détester son sujet. Il me dit pourquoi tu l'as publié? Eh ben, il devait avoir un contrat.
So I'm still interested. I'm very interested in translation.
You're moderating the panel.
I'm not the moderator.
Thank you.
I'm a question asker because I'm interested in what you do.
Yes,
I'm interested
you.
In what you do.
Donc il s'intéresse à notre travail, donc c'est pour ça qu'il prend la parole beaucoup.
Do you find it mentally an adjustment when you go from one writer with one style and your next book is a writer with a very different style? Do you have to go through a process?
Est-ce qu'il y a une période d'adaptation quand on passe d'un auteur à un autre avec des styles très différents?
Obviously, yes. Yes. Pour moi, oui, c'est évident.
Oui, moi aussi, bien sûr. Et souvent, ça m'est arrivé une fois où je traduisais j'étais passé d'un auteur de science-fiction militaire, donc avec une rigueur militaire.
David Weber.
Et ensuite, je suis passé sur un roman de fantasy jeunesse de Ursula Le Guin. Et j'ai traduit les premières pages de Monsieur Le Guin à la manière de David Weber. C'était très particulier.
Once he had just finished David Weber book. And he had to start right now an Ursula Le Guin book. It was very, very bizarre.
Donc là, bah, j'ai tout effacé. J'ai repris une fois que j'étais bien dans l'ambiance de Le Guin.
And if you like translator stories, I have a good one for you. Si vous aimez les histoires de traducteurs, last year, an editor friend of mine sent me a book. C'est Jean-Daniel, this book. I've just bought this book. I want you to translate it. Donc l'année dernière, un directeur littéraire me dit, Jean-Daniel, je viens d'acheter les droits de ce livre, il est pour toi, je te l'envoie, j'aimerais que tu le traduises. I start to read the book, I think it was a printed book, not a galley. Je commence à le lire et after reading a quarter of it, I wanted to throw it out of the window. Après avoir lu un quart, j'ai voulu le jeter par la fenêtre tellement, because it was very harsh, very cruel, it was horrific. With torture scenes, with children and the like. Et donc, c'était un livre que je trouvais horrible. Il y avait des scènes de torture avec des enfants. Et donc, j'ai téléphoné à mon éditeur et je lui ai dit, mais c'est horrible. Puis en plus, ça ne tient pas debout. L'histoire n'a aucun sens. I say to my friend, this is horrific. And besides, it has no point. The story goes nowhere. That was my same reaction. But my publisher told me, read it until the end. Mon éditeur me dit, j'ai eu la même réaction. Enfin, mon directeur littéraire me dit, j'ai la même réaction. Mais mon éditeur l'a poussé à lire jusqu'à la fin. And it is wonderful, it is excellent. You must read it to the end. Et c'est vraiment, essaye, insiste. And he was right. Et il avait raison. So I said, all right, je dis d'accord. Et puis le moment venu, in good time, j'ai commencé à le traduire. In good time, I started to translate. And the same thing happened again. This was harrowing. La même expérience, c'était terrifiant. Je ne m'en suis pas encore remis. I'm still trembling from the shock, you know.
It was the same thing for a writer, for me, because my books aren't all one continuation. From one book to the next, I need to change my mentality and my style. But because of the research, and because I take 3 years usually to do a book, I have time to make that change. Sometimes you have no time at all.
Donc c'est la même chose pour lui en tant qu'écrivain. Quand il passe d'un ouvrage au suivant, il change complètement de style et de cadre. Mais il écrit un livre tous les 3 ans en moyenne, donc il a le temps de faire cette adaptation, ce travail mental que nous, traducteurs, entre deux livres, on a quoi ? Une nuit ? Quand tout se passe bien.
Yes, sometimes we've got only a night. And I have done a few times translating two books simultaneously, you know. Morning, contemporary mystery novel in Alaska. And afternoon, computer thriller in the near future. You have to keep things straight. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Le matin, je traduisais quelques pages d'un roman policier contemporain se passant en Alaska. Et l'après-midi, je traduisais un thriller futuriste sur la transhumanité. Il y avait intérêt à bien garder ces bestiaux, quoi. And since I spoke about the work of the editor, I wanted to ask first Michael, how does he work with his editor at La Talente, and then you. Puisqu'on a parlé du travail de l'éditeur, enfin du directeur littéraire, je voulais demander à Michael comment il travaille avec son éditeur ou son éditrice à La Talente. Est-ce qu'elle, c'est celui ou celle qui supervise la traduction?
Alors évidemment, le travail avec l'éditeur est essentiel. C'est rien de le dire. Et c'est une des phases que je préfère dans le travail. C'est un peu une libération. On a travaillé très longtemps tout seul sur le livre. On remet notre traduction. Après, on attend.
Michael says this is the best part of the job, I think, because he has spent some weeks or a few months alone on a book, and then he gives the work to the editor and is waiting for the feedback, and a new phase of the work begins, where he's not alone anymore.
Voilà, c'est ça. Et donc on attend le temps que le directeur de collection en général fasse son travail, il nous renvoie ses annotations. Et là, il y a deux façons de le prendre. Soit on prend ça comme une correction scolaire et puis ah, j'ai mal fait mon travail, soit au contraire, c'est l'occasion d'améliorer le texte. Et c'est vraiment comme ça que je le prends.
And then the annotated manuscript comes back and with a lot of sometimes a lot of I had 3,000 on a translation and 3,000 correction. Un jour, j'ai eu 3,000 corrections sur une traduction. J'ai cru devenir fou. And this is what Michael says. Either you take it as a punishment, harsh punishment for the teacher, or else you take it as an opportunity to progress, to get better.
Et c'est l'occasion, j'en parlais donc avec Mireille Rivalan, je ne sais pas si elle est là, j'ai eu la chance de travailler hier avec elle sur les annotations de ma dernière traduction. C'est la première fois que je fais ça avec la personne
en
face, donc c'est une chance géniale. Et je lui disais qu'elle m'apportait en fait de nouveaux outils. Puisqu'on a chacun notre vocabulaire, qu'on essaye d'avoir le plus étendu possible. Et là, elle m'a apporté une nouvelle formulation. Je dis, c'est génial, je la note. J'ai ma liste de formulations pour un terme anglais particulier.
Yesterday, for the first time in his career, he had the opportunity to have a work reunion, to work with his editor at La Talente on the translation he's working on. And he said it was fantastic because... this live exchange was much more fruitful And he told her, you are giving me new tools to do my job. This is wonderful. And je voulais dire une remarque. En fait, c'est là que notre travail se rapproche de celui de Guy Gavriel Key. What makes our works, specific works, closer is that moi, ce que j'apprécie le plus, une des choses que j'apprécie le plus dans le métier de traducteur, c'est d'apprendre tout le temps des nouvelles choses. One of the things I like best in my job is that you always learn something new. And I think you do too.
But that's true for me as well, that the greatest pleasure of my writing, we talked about this last night, is that because I move to different cultures and periods of history, I'm always learning something new.
Donc pour lui aussi, en tant qu'écrivain, c'est un de ses grands plaisirs, puisqu'il change sans arrêt de décor, il apprend toujours quelque chose de nouveau.
If you take a writing course, the most commonly said phrase from an instructor is write what you know.
En cours d'écriture, ce que les instructeurs ou les professeurs disent le plus souvent, c'est le meilleur conseil qu'ils donnent, c'est écrivez ce que vous connaissez.
And I always say no. Write what you want to know.
Donc c'est pas le meilleur conseil, c'est le conseil le plus fréquent. Et lui dit non, n'écrivez pas ce que vous connaissez, mais ce que vous voulez connaître.
Because when the writer is engaged in a journey of discovery, their passion, their energy, can come through to the reader or even the translator.
Quand un écrivain s'engage sur le chemin de l'écriture, il apprend beaucoup de choses qui vont le faire.
Quand l'écrivain s'engage sur un voyage de découverte, il apprend plein de choses qui lui donnent la passion de continuer. Merci. Et cette passion se transmet au lecteur et au traducteur, parfois au traducteur.
Merci Jean-Daniel.
Alors on commence à fatiguer là. Je pense que ça va être autour des spectateurs de traduire bientôt. This is going to be their turn to translate. There are several translators in the room. Je pense que s'il y a des spectateurs qui veulent poser des questions, alors je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, mais sinon vous parlez un peu fort. Sinon on continue, on peut tenir deux heures comme ça. Hein. Non? Je vous vois pas bien. Hein. Donc, si vous levez la main, oui, il y a un micro. D'accord. Alors, merci. Tu verras peut-être mieux que moi. Alors, je me préviens par avance. Sorry, this is a private joke between the audience and me. Je refuse, et Michael aussi, de répondre à toutes les questions sur la solution de continuité. Ceux qui étaient là l'année dernière me comprendront.
Bonjour. Moi, j'avais une question plutôt pour les traducteurs. Quels outils et quelles méthodologies vous utilisez pour traduire?
This is a question for us. You are asking us what are our tools and what are our working methods. Comment ça?
Oui, mais c'était une question dont
on avait prévu de se poser.
C'est très bien.
Donc, merci.
Évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la révolution qui a été Internet dans notre métier. En fait, moi, j'ai commencé en tant qu'étudiant. Internet n'existait pas, et Internet est arrivé juste quand j'ai commencé. Mais j'ai quand même traduit un roman dans le cadre de mes études sans Internet, et c'était une autre époque où il fallait aller en bibliothèque, il fallait passer des coups de fil pour faire les recherches.
First revolution, according to Michael, is the advent of the Internet. Once, many years ago. You had to go to libraries, consult books, ask people. But now you can find everything on the Internet. Je suis tout à fait d'accord. Ça a été une révolution. Un des premiers livres que j'ai traduit, c'est dans les années 90. C'est un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle Les larmes d'Icare de Dan Simmons, qui fait appel de façon très documentée et très abondante au vocabulaire de l'aéronautique et de l'espace, avec tous les sigles qui vont bien. Et à l'époque, j'habitais à Paris. Eh bien, je suis allé à la cité, à la Villette, la cité de l'industrie. J'ai la mémoire qui flanche. Et j'ai emprunté The Aerospace Dictionary. C'est-à-dire, il y avait tous ces termes-là en quatre langues.
anglais, français, allemand, espagnol. Donc j'avais tout. J'avais tout.
Tu as traduit ?
Oui.
Merci. Thank you. Et sinon, bah, les outils en ce qui me concerne, je travaille... Comme j'ai une certaine ancienneté dans la profession, on va dire, j'ai commencé avec une machine à écrire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et même, j'ai jamais eu de machine manuelle. Déjà, c'était une électrique. Et puis, l'ordinateur est arrivé dans les années 80. Et là, je suis passé à l'ordinateur. J'en ai eu plusieurs. Et d'ailleurs, j'ai été témoin de la révolution qui s'est passée dans l'édition au début des années 90, où un éditeur de Noël, pour ne pas le nommer, m'a dit, Jean-Daniel, si tu nous livres des disquettes, c'est encore un mot du passé, des disquettes Word sous Macintosh, tu auras un supplément de tant de francs par page. Alors, comme il m'avait donné à traduire un bouquin qui devait faire 1600 feuillets calibrés, j'ai fait le calcul et je me suis acheté un Macintosh. Il a été amorti tout de suite. Et je sais que d'autres éditeurs faisaient la même chose.
Sur la méthode.
Tu l'as traduit ?
J'ai traduit.
Merci.
Sauf la fin, parce que je n'ai pas entendu.
I was saying that the first time a publisher offered me a bonus if I delivered a Word disk, floppy disk for Macintosh, it would give me a bonus, and I made a calculation, I bought a Macintosh, because the book was huge.
Oui, donc les méthodes, les outils, c'est ça, c'est Internet, les ordinateurs. J'utilise de moins en moins de dictionnaires papier, et ce, depuis peu. Il y a quelques années encore, j'utilisais encore beaucoup mon Robert et Collins. Maintenant, on a tous les outils en ligne, même sur Internet, on n'a même plus besoin d'acheter les dictionnaires. Et ce qui est génial, c'est pour les recherches de références culturelles et littéraires, où là, on a vraiment accès pratiquement à tout maintenant, y compris le texte. On trouve le texte des romans sur Google Books. Et ça, c'est assez récent.
So he said basically that he has almost ceased to work with printed dictionaries. It's quite recent, you say, récemment, les dictionnaires. And he's working more and more with the Internet. For the French-English or English-French dictionary, you can find everything you know need on the Internet. And to do research in cultural, historical and literary matter, this is wonderful. Pareil que Michael, bon, moi, j'ai conservé certains dictionnaires, notamment parce qu'ils ont un usage bien précis. Il y a 30 ans de ça, je me suis offert le Grand Robert en 9 volumes, qui donne quelque chose de très précieux pour moi, qui est la date d'entrée du mot dans la langue française.
I still use a French dictionary, a French language dictionary in 9 bound volumes, very beautiful, but for one specific use, because it tells you when such word was used, which that was it used in French. So if you translate a historical novel, you have a term in mind and say, oh, no, I can't use it. Well, maybe in the narration, but not in the dialogue.
Quand on traduit un roman historique, qu'on veut utiliser un certain mot, et puis on se rend compte que, on ne peut pas.
I told you I was part of the translation team on the latest Ken Follett.
Donc j'ai participé à la traduction du dernier Ken Follett. On était 5, puisqu'il fallait que rendre le livre en 2 mois, ou quelque chose comme ça.
Et ce book which takes part in the 16th century,
les guerres de religion, 16e siècle,
and we had a lot of trouble defining weight and measures in French.
On a eu du problème pour définir quel poids et mesure on allait employer en restant fidèle à ce qui se faisait à l'époque. Il n'était pas question de mettre des mètres, des kilomètres et des kilogrammes.
We couldn't use meters, kilometers and kilograms.
Les Anglais, ils ont du pot. Le miles, ça n'a pas changé depuis des années. Donc, le miles anglais, c'était le miles anglais de l'époque et de maintenant.
English mile is still the same.
Idem, bon, le mille nautique, ça va. En français, il est connu, on n'a pas eu de problème. Mais là, ce dictionnaire-là m'a été particulièrement utile.
This dictionary, in such a case, was useful. Say, oh, You can't use that, that's 19th century. Mm. Pas utiliser ça, ça vient du 19e siècle.
So let me ask you on this subject. Aside from words as an issue, what about tone from English to French? For example, if someone in English uses an exclamation point, or if the text in English has italics for emphasis, in French, will that be too loud, too assertive, or would you use it more often in French because the language allows or needs that energy? How do you feel about that?
Donc, au-delà des mots, qu'en est-il du ton et puis de l'intonation en fait des personnages qui s'expriment? Ou en anglais, si en anglais on a un point d'exclamation ou ce qui s'utilise beaucoup, des mots en italique pour insister, est-ce que comment on va aborder ça en français?
Je te laisse. Merci. Je sais que c'est une réponse qui fait un peu évasion, mais c'est au cas par cas. To which case is wrong? Ici, oui, il y a besoin d'insister, etc. Là, non, c'est pas la peine. On va pas mettre des italiques partout. On comprend qu'il est en colère, on comprend qu'il crie. In this place, maybe it's not necessary. And besides, there is a rule that covers them all. Il y a une règle qui, de toute façon, couvre tous les cas. The editor has the last word. Le directeur littéraire a le dernier mot. Moi, je me suis fait corriger parce que Jean-Daniel, tu exagères. Là, Jean-Daniel, c'est un peu mou. Bon, c'est le travail de traduction, que ça soit le fait de Michael Cabon ou de Jean-Daniel Brec ou de Gilles Goulet ou des absents que nous regrettons tous. Nous regrettons l'absence comme Patrick Marcel. Il va très bien, merci. L'un de nous qui travaille avec Mireille Rivalan à La Talente, avec Gilles Dumais bientôt chez Albin Michel, maintenant tout le monde est au courant, avec Pascal de Billon chez De Noël, le résultat ne sera jamais le même. I think this is purely a subjective matter. Each translator working with each editor, you won't have the same result. And if they all are good, it will be a good result, but it won't be the same. There is going to be a translator's match. C'est demain.
Demain, oui.
Demain, il y a un duel. Comment ils appellent ça? Un duel.
Une joute
de traduction entre Michael et puis qui?
Et Sarah Dock.
Et Sarah Dock. Donc, on va. Principle, if I got it right, they are given a text and they have to work on it and compare the results. Et on leur donne un texte. Chacun doit produire une traduction. Dans quel délai?
Ça y est, la traduction est faite.
Ah, oui.
Heureusement, ce n'est pas une traduction en direct.
They work it in advance. Oh, that's cheating. So they produce the translation and they are going to compare the job. And
il n'y a pas de bonne traduction idéale, je pense. Enfin bon, peut-être, mais je n'en ai pas rencontré.
There is no ideal translation.
Pour compléter sur l'histoire des italiques, il faut voir qu'on a des outils différents dans différentes langues. L'anglais va beaucoup effectivement utiliser les italiques puisque c'est une langue qui a un accent tonique, qui utilise beaucoup les accentuations. En français, ça existe évidemment, on a une accentuation dans le langage parlé, mais à l'écrit, on ne va pas le sentir. Mais par contre, on a des outils syntaxiques. Plutôt que mettre un mot en italique, pour dire il parle, on va dire c'est lui qui parle. Et ça, c'est une tournure très française qu'on peut employer, qui est parfois lourde, mais qui peut rendre service.
You're going too technical for me. I'm going to sum up. But basically, what he said is that English and French don't have the same rule. So to get the same effect as the English sentence, which we have to translate, we can use French syntax or rhetoric and the like, or some way of speaking to have the same effect. When you have a long paragraph in English and go to the line, and I do.
Un long paragraphe en anglais, puis on va à la ligne, et puis le gars répond, I do.
Yeah, there are several ways to translate this. You have to respect the sense and the effect. And sometimes you can do both. Et il y a plusieurs façons de le faire. Parfois, il faut respecter la musique, l'impact. Parfois, il faut aussi avoir conscience du sens. La plaie pour nous, traducteurs de fiction, the worst thing for us who translate prose, c'est quand on se retrouve à devoir traduire des bouts de poésie. Is when we have to translate bits of poetry. I told you about Paul Anderson, The Broken Sword. I sweated rivets. J'évoquais tout à l'heure en conversation avec lui l'épée brisée de Paul Anderson, où il y a plein de poésies, bon, qui sont des poésies écrites en américain, mais à la manière des poésies nordiques. C'était très très dur. On va peut-être laisser le temps à quelqu'un d'autre de poser une question, parce que c'est vrai qu'on est bavard. My God, how talkative we are. Quelqu'un? Non. Pas de volontaire. Je vous vois pas assis, je vois une main là. Qui c'est qui a le micro? Voilà. Merci.
Je voulais juste savoir, apparemment, vous êtes déjà allé dans le sud de la France quand vous aviez écrit un livre un peu en rapport avec. Est-ce que vous faites pareil pour tous les pays?
This is a question for you, Guy.
Do you go to every country you write about?
Do I have?
Yes. So you've been to south of France.
Tu peux parler plus fort, hein?
And do you go to every country you talk about in your books?
For my books in France.
And all, I mean, did you go to China, basically?
I'm trying to find a question.
The question is, the gentleman knows that you have been living into France for some time for the purpose of writing a book. Do you do that often, go to other countries, or was it the only instance?
In terms of being in France, I fell in love with Aix-en-Provence 25 years ago. And I wrote three books there.
Plus précisément, il est tombé amoureux d'Aix-en-Provence il y a 25 ans et il y a écrit trois livres.
The first time I lived there, I was researching for Chanson pour Arbonne, a book inspired by the Albigensian Crusade, the Cather Crusade. Mm.
La première fois, il faisait des recherches pour le livre... La chanson pour Arbonne.
La chanson d'Arbonne.
La chanson d'Arbonne. Merci, Michael. Donc, il faisait des recherches surtout sur les Cathares.
And by this is the wonderful thing about writing when good luck can give you something.
C'est un des aspects les plus agréables du travail d'écrivain, c'est quand par chance on reçoit un cadeau.
We went to a concert, a performance in the Palais de Justice. In Aix-en-Provence.
Ils sont allés assister à un concert dans le palais de justice d'Aix-en-Provence.
And a magnificent French singer named Esther Lamantier was singing troubadour songs in that concert.
Et dans le cadre de ce concert, une chanteuse formidable, alors Esther Lamantier, chantait des chansons de troubadour. I think I got it right. Chantait des chansons de troubadour.
And I was just at the beginning of thinking about what I would do with this novel, and immediately the idea locked in that I would work with troubadour characters and songs.
Il en était au premier stade de la réflexion sur ce livre, lorsque, à l'issue de ce concert, immédiatement l'idée lui est venue, il allait travailler avec personnages de troubadour.
So the book that I wrote would be a very different novel if I hadn't heard that concert.
Donc le livre qu'il aurait écrit aurait été très très différent si par chance il n'était pas allé à ce concert.
And it always makes me feel both wonderful and aware of luck in the creative process.
Donc ça le rend plus que jamais conscient de l'importance de la chance dans le processus créatif.
When I lived in Aix-en-Provence again 12 years ago and I wrote Isabel, by luck, someone there told me the founding myth of the city of Marseille. And that became the anchor for that novel.
Et par, lorsqu'il est revenu à Aix-en-Provence, donc il y a 12 ans, pour travailler sur le livre qui allait devenir Isabelle, quelqu'un lui a parlé, you say the founding myth, le mythe fondateur de la ville de Marseille, et ça lui a donné l'idée du roman.
And again, in exactly the same way, the book that I wrote would be a different book if I had not heard that story.
Et même remarque, le livre que j'ai écrit aurait été tout à fait différent si je n'avais pas entendu cette histoire.
I think we can wrap up on this. I want to thank you very, very much. You have been
thank
wonderful. Merci, Michael. Tu t'es bien défoncé.
Merci, Jean-Denis.
Je vous remercie beaucoup. Et
merci beaucoup.
Je crois que si j'ai bien vu, je crois que nous allons laisser la place à Gérard Klein. Je l'ai vu qui se glissait subrepticement.